بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 18 du mois Safar de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 1er août 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour apprendre ensemble notre religion. Et nous allons commencer, comme d'habitude, cette rencontre par la lecture de Sourate Al-Kafiroun. Donc ceux qui souhaiteraient participer, ouvrent tout simplement leur micro et je vais leur donner la parole. Barakallahu fikoum. طيب شوية شوية مريم. اسمك مريم؟ كم بلغتي من العمر؟ T'as quel âge?
7 ans.
7 ans, طيب. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، ta récitation elle est bien. Barakallahu fiki. Lakin, pourquoi tu parles pas la langue arabe?
Parce que moi je suis sénégalaise avec ma fille.
Oui, mais t'es musulma, n'est-ce pas?
Oui.
La langue arabe, c'est la langue de l'islam et des muslimines. C'est pas la langue d'un pays ou la langue d'une culture ou la de tradition. C'est pour ça qu'il est très important d'inciter tes parents à te mettre le plus rapidement possible à apprendre la langue arabe. Et quand tu es à ton âge, c'est très facile, bi'idnillah. Donc, il faut s'y mettre afin de comprendre le Coran, la parole d'Allah, et de comprendre les paroles du prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle les hadiths, et d'avoir une bonne compréhension de l'islam. C'est indispensable d'apprendre la langue arabe, c'est une obligation religieuse. Si tu veux, c'est plus important que tes parents t'aident à apprendre la langue arabe que de t'acheter des vêtements, de la nourriture et ainsi de suite. Ok ? En tout cas, ta récitation, elle est bien, mashallah. Barakallahu fik. Là, c'est Issa. C'est Issa qui récite là.
Non.
On va terminer avec Mariam et son frère. Attends. Quand je cite ton prénom, après tu commences à lire. Donc, est-ce que Issa veut lire? تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون. ما لا أعبد ما تعبدون. لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، أحسنت. Toi aussi, t'as quel âge, Issa?
6 ans.
6 ans. Alors, c'est l'idéal pour se mettre à apprendre la langue arabe avec ta sœur. Qu'Allah vous facilite. Taïb, on va passer au suivant.
D'accord.
Tfaddal ya Abdullah.
Shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبدتم ما ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله.
ما اسمك؟
مصطفى.
مصطفى، ما شاء الله. Tu sais ce que ça signifie مصطفى؟ هل تتكلم باللغة العربية؟ Est-ce que tu parles la langue arabe؟
No.
No, you speak what? English?
Là, ça va comme ça, c'était mon petit cousin, il parle pas français.
Il parle français?
Non, il parle perse.
Ah, d'accord. Mashallah. C'est un petit cheikh, Allah Mubarak.
Non, mashallah.
Lakin, il faut, pareil, il faut qu'il se mette à apprendre la langue arabe.
Inch'Allah.
Qu'Allah lui facilite. Aussi, il y a une autre remarque. Sadaqa Allahu al-Azim.
Non.
C'est pas rapporté de Nabi Aïssa Salam ni d'aucun compagnon que quand il terminait leur récitation du Coran, il disait Sadaqa Allahu al-Azim. Malgré que le sens, il est vrai. Allah dit vrai dans tout ce qu'il a révélé. Subhanahu wa ta'ala. Lakin, c'est pas une sunna de la dire à la fin de la récitation. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tu lui traduiras.
Inch'Allah.
Allahumma barak. Jazakumullahu khair. Taïb, on va passer au suivant, Inch'Allah. Ummu Khadija.
A'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
ما شاء الله. اسمك خديجة؟
نعم.
كم بلغت من العمر؟
6.
6 سنوات. ما شاء الله، اللهم بارك. قراءتك جيدة، جزاك الله خيرا. تتكلمين العربية؟ أحسنتي، واصلي واستمري، وصلك الله بكل خير. طيب، ننتقل إلى الذي بعدها.
عبد الله.
عبد الله، طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا عبد الله. كم بلغت من العمر يا عبد الله؟
أربع
سنوات. ما شاء الله، قراءة جيدة جدا، وفقك الله.
آمين.
طيب ننتقل للذي بعده.
مريم.
مريم على بركة الله. يلا يا مريم. قل يا أيها الكافرون. مريم عندك كم سنة؟ سنتين. ما شاء الله،
ثلاثة.
إذن بالنسبة لثلاثة قراءة جيدة، بارك الله فيك. طيب الذي بعدها. الذي يريد أن يقرأ يفتح اللاقط. celui qui veut lire il ouvre son micro pour que je sache qu'il souhaite lire. طيب أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي. كم بلغت من العمر؟ تاكيلاج. يا محمد.
لا.
تاكيلاج.
J'ai 6 ans.
T'as 6 ans. Tu parles la langue arabe ?
6 ans.
Oui, mais tu parles la langue arabe ? On est passé à une autre question. Non ? Et qu'est-ce que t'attends ? Tu prends des cours de langue arabe ?
Oui.
Bah, il faut pratiquer. Ce que t'apprends, tu le pratiques. Sinon, tu vas pas avancer. C'est comme ça qu'on avance quand on apprend une langue. Ce que tu apprends aujourd'hui, tu le pratiques le jour même, et ainsi de suite. Allez, on t'écoute. Yalla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vas-y Mohamed. Peut-être que Mohamed a un problème avec son micro, donc on va passer au suivant. Alors, Asma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أحسنتي. اسمك صفية؟
سمية.
سمية. طيب معك غيرك؟ Y a quelqu'un d'autre avec toi qui veut lire؟
نعم.
طيب ما اسمها؟
أسماء.
أسماء، تفضلي يا أسماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، قراءة جميلة، بارك الله فيك يا أسماء. طيب
يا مسافر إن شاء الله صفية.
طيب تفضلي يا صفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أحسنتي، قراءة جميلة، بارك الله فيكم. طيب محمد، تفضل يا محمد. طيب سليم،
نعم
تفضل.
سورة الكافرون.
اي نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدوا ما عبدتم
ولا
أنا عابد ما أعبد.
ربت ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
remarque un point. Le ما c'est avec une prolongation. ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنتم عابدون ما أعبد.
أحسنت.
لكم دينكم ولي دين.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب هل محمد جاهز؟ نريد أن نختم بمحمد. On veut terminer avec Mohamed. Sinon s'il y a quelqu'un d'autre qui veut lire un dernier. طيب تفضل يا محمد. يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد. تا كل عج 6 ans. Tu me l'as dit tout à l'heure. Mashallah, barakallahu fik. Continue. Bon courage dans ton apprentissage. Barakallahu fik pour cet effort. Tayeb, le dernier. Tayeb, tfaddal. Tayeb, tfaddal.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله، اللهم بارك. أحسنتي، أحسن الله إليك. قراءة جميلة، بل ريسيتاسيون. طيب خديجة،
مريم.
مريم أيوة افتقدناك يا مريم صافي لونطون. يلا تفضلي.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. معك غيرك؟
خديجة.
خديجة تفضلي يا خديجة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم
ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أحسنتي. طيب لعلنا سنكتفي بهذا القدر. On va se limiter à ça et on va prendre d'une manière résumée l'explication de cette sourate. Et je vous demande toute votre concentration, car on va prendre l'explication d'une des sourates les plus importantes du Coran, au point qu'au sujet de cette sourate, il a été rapporté que c'est une des sourates qui mettent le plus en colère, qui enragent le plus Iblis. Et vous allez comprendre pourquoi. Qui peut me dire pourquoi ? Yani, Iblis déteste le Coran dans son intégralité, bien évidemment. Mais pourquoi il déteste en particulier cette sourate ? Qui peut répondre ? Yani, il n'y a pas de mal à faire un effort, étant donné qu'on va voir la bonne réponse. Ça a été rapporté par du grand compagnon Abdullah ibn Abbas. Ça a été rapporté de lui que cette sourate, c'est la sourate qui enrage le plus Iblis. Ferme ta caméra, Barakallahu. Taïb, qui peut répondre ? Faites des efforts. Faut apprendre. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est la notion de la réussite et ce que c'est l'échec en islam. C'est quoi réussir en islam ? C'est d'avoir les résultats ? Oui, non. C'est d'avoir les meilleurs résultats ? Est-ce que c'est ça la réussite ? La réponse, c'est oui ou non. C'est très simple. Alors, on va ouvrir les micros pour tout le monde, comme ça, personne n'aura d'excuses. C'est quoi la réussite en islam ? C'est d'avoir les meilleurs résultats, d'arriver le premier. Est-ce que c'est ça la réussite ?
Est-ce que c'est
ça ? Oui, maman, je sais.
Réponds.
Réponds.
Parce que au paradis, quand Allah il a dit à Iblis de se prosterner devant Adam, et ben Iblis il a refusé. C'est pour ça qu'il déteste le Coran.
Oui, il déteste le Coran. Ça c'est une bonne réponse. Pourquoi il déteste le Coran en entier. Mais pourquoi il déteste cette sourate en particulier? C'est à cause des sens qu'elle comporte.
Ah, parce que Allah il a dit, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'il y a un jour quelqu'un. Ça veut dire, il a dit il a idée de verser le chétan parce que il aime pas le prophète Mohammed sallallahu
alayhi wa sallam. Parfait, parfait, parfait. Masha'Allah. T'as le mérite d'avoir répondu. Barakallahu fik. Tu t'appelles comment?
Je m'appelle Mariam.
Mariam, mashallah. Barakallahu fik ya Mariam. Qu'Allah fasse que tu sois une parmi l'alimat, les savantes de cette religion de l'islam. Et que tu propages justement cette science qui est concernée par cette sourate et qui fait qu'elle enrage le plus Iblis. Parce que sourate al-Kafirun, ça comporte at-tawhid, l'unicité d'Allah d'une manière pratique. Et sourate se termine par la notion la plus importante en islam, qui est le désaveu de tous les mécréants. Lakum dinukum waliya din. Tayyib. Alors, au sujet de cette sourate, il y a plusieurs ahadiths qui ont été rapportés. Celui qui a ouvert le micro, il le ferme. Barakallahu fikoum. Taïb. Ça fait. Ok. Taïb. Donc, un sahabi qui s'appelle Farwa ibn Nawfal, radiyallahu anhu, a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, enseigne-moi quelque chose que je dirai quand je prends mon lit pour dormir. Yani la nuit. Quand on va dans son lit pour dormir, il lui a dit, enseigne-moi quelque chose que je puisse dire à ce moment-là. Il lui a dit, quand tu prends ton lit pour dormir, récite sourate Al-Kafiroun, car c'est un désaveu de l'associationnisme et du polythéisme. Donc, ça c'est la raison pour laquelle Iblis déteste cette sourate en particulier, car elle comporte un désaveu de la mécréance et des mécréants. Et ça, c'est la notion la plus importante en islam. C'est la pratique du tawhid, tout simplement. Et cette sourate le comporte d'une manière claire, explicite et concise. C'est pour ça, vous avez deux sourates qui se complètent et qui nous donnent le tawhid dans son intégralité. C'est quoi la deuxième? Allah. Faites des efforts et répondez. Lana, je vous expliquais tout à l'heure, la réussite en islam, c'est de faire les efforts. Allah te rétribue sur tes efforts, non pas sur les résultats. Les résultats appartiennent à Allah. Lakin, ce que tu as entre les mains, ce sont les efforts et les causes. Et l'échec, c'est pas de ne pas avoir les meilleurs résultats. L'échec, c'est de ne pas faire les efforts. C'est ça l'échec. Et si Allah t'accorde les résultats, c'est une faveur de sa part. Si tu ne les accordes pas, tu seras quand même récompensé en islam parce que tu as fourni les efforts. D'accord? Comprenez bien ces notions. Ce sont des notions qui peuvent paraître simples, mais qui peuvent changer la manière de voir dans cette vie. Ce que c'est la réussite, ce que c'est l'échec en islam. C'est pas comme chez les koufars. D'accord? Alors, c'est quoi l'autre sourate qui complète sourate al-Kafirun? Je vous donne un indice. Si vous répondez pas maintenant, je vais vous donner un indice. C'est que Nabi alayhi salam lisait souvent ces deux sourates dans plusieurs salawats surrogatoires.
Alhamdulillah.
Non. Oui.
Non.
Vas-y. سورة الإخلاص. أحسنت أحسنت. قل هو الله أحد. Parce que قل هو الله أحد, si vous vous rappelez quand on l'a lu et quand on a fait son explication, on a dit que ça comporte l'unicité scientifique d'Allah. Et ici, قل يا أيها الكافرون, ça comporte l'unicité pratique. Donc l'unicité, c'est une science et c'est une mise en pratique de cette science. Les deux sourates englobent les deux volets. Et c'est ça, allez, vous comprenez pourquoi le Nabi عليه الصلاة والسلام, il les lisait dans beaucoup de salawat, toutes les deux, ces deux sourates. Il les lisait dans la sunna de l'Fajr, il les lisait dans la sunna de l'Maghrib, il les lisait dans les deux raka'at de Tawaf, et ainsi de suite. Il lisait dans la première raka'at, قل هو الله أحد, il lisait dans la première raka'at, قل يا أيها الكافرون, et dans la deuxième, قل هو الله أحد. طيب. Cette sourate, il a été rapporté dans un hadith qu'elle représente un quart de le Coran. Qu'elle représente un quart de le Coran. Et قل هو الله أحد, elle représente combien de le Coran?
Il faut... Oustad, je sais,
oui?
Un tiers, deux quarts.
Deux quarts, c'est un demi.
La moitié?
Non.
Deux quarts.
Trois quarts? Non.
Cinq quarts.
Mais non, mais c'est pas des quarts, c'est des tiers.
Trois tiers.
Un tiers. Un tiers.
Un tiers.
Et allez, si tu lis trois fois, قل هو الله أحد, c'est comme si tu as lu le Coran en entier. Un tiers. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, le Nabi alayhi salam, il lisait dans Sunnat al-Fajr. Il lisait, قل يا أيها الكافرون, et dans la deuxième raka'a, il lisait, قل هو الله أحد. Également dans Sunnat al-Maghrib, dans les deux raka'at de Tawaf. Et également dans Salat al-Witr. Dans l'Witr, les trois raka'at, dans la première, il lisait Sabbih isma rabbika al-a'la. Dans la deuxième, قل يا أيها الكافرون. Et dans la troisième, il lisait قل هو الله أحد. Regardez dans combien de salat le Nabi عليه الصلاة والسلام lisait ces deux sourates pour leur importance. طيب. On va regarder, يعني on va parler de, des sens des versets de cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون dit ô vous les infidèles. Remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala ici s'adresse à tous les mécréants. Ça c'est un appel. قل يا أيها, il dit d'abord à son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à tous les mécréants, quelle que soit leur mécréance, toutes mécréances confondues. Que ce soit les mécréants, yani, le discours s'adresse bien évidemment aux mécréants de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, premièrement, et à tous les autres par la suite. Donc, ce discours s'adresse à tous mécréants, quelle que soit sa mécréance, comme l'athéisme, comme ceux qui renient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc le discours s'adresse à eux tous. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il lui a dit de leur dire quoi? De leur dire La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Je n'adore pas ce que vous adorez. Car ces polythéistes et ces associateurs adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi alayhi salatu wassalam adorait exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'ont pas le même adoré. Quelqu'un peut dire, mais ces associateurs, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils adoraient bien Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et ils adoraient autre que lui. N'est-ce pas? Il faut participer avec moi.
Oui.
Oui, c'est vrai. Donc, ils adoraient Allah, mais ils adoraient autre que lui avec Allah. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des mushrikin. Ils reconnaissent l'existence d'Allah. Ils disent Allah existe. Ils disent Allah, c'est lui qui a tout créé. Ils disent Allah, c'est lui qui nous donne le rizq. C'est lui qui nous donne tout. Lakin, ils vouent une partie de leur adoration à autre que lui. Cette adoration qu'ils ont faite pour autre qu'Allah, elle annule leur adoration pour Allah. Car Allah n'accepte que l'adoration qui est faite exclusivement à lui. Donc c'est comme s'ils n'adoraient pas Allah. Vous avez compris ce point? Il est très important. Qui n'a pas compris?
Moi, j'ai compris.
Alors, tu l'as compris, tu vas nous l'expliquer maintenant.
Moi, je sais, c'est quoi l'histoire?
Tu sais ce que c'est l'histoire, mais il faut nous la raconter.
Allah, il a dit au prophète Mohammed sallam, qu'il y a ayyuhal kafirun. Moi, je n'adore pas plus que vous. Vous adorez.
Là, attends. Allah lui a dit de leur dire, je n'adore pas ce que vous adorez. Mais eux, ils adorent Allah, comme on a vu.
Mais ils ont fait une partie que moi, je vous adore. J'adore Allah et une partie, j'adore les statues.
Ahsant, bien, c'est une bonne réponse. Excellent, mashallah, Allahumma barik. Donc, comme bien même ils adoraient Allah, mais ils adoraient autre avec lui. Autre divinité, des fausses divinités. Des pierres, des arbres, des astres, et ainsi de suite. Des djinns. Donc, l'adoration qu'ils faisaient pour autre qu'Allah annule leur adoration d'Allah. Donc, ils n'adorent pas du tout Allah. Car celui qui adore Allah, c'est lui qui l'adore seul, sans rien lui associer. Comprenez bien ce point, il est fondamental dans la religion de l'islam. Celui qui adore Allah, c'est celui qui l'adore seulement. Ce n'est pas celui qui l'adore, il adore autre avec lui. Ça, c'est un associateur. Taïb, la a'budu ma ta'budun. C'est-à-dire comme ceux qui adorent les mausolées, les tombes. Ils font des adorations pour ces mausolées, ces tombes. Ils vont à côté, ils vont faire des sacrifices. Ils vont invoquer ces morts. Tout ça, c'est des adorations qui sont vouées à autre qu'Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jalla lui a dit de leur dire « Wala antum abiduna ma a'bud » et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. La même chose qu'on a dit tout à l'heure, car le prophète Aïssa salam adore Allah seul. Et eux, ils adorent Allah, ils adorent autre avec lui. Donc, ils n'adorent pas la même chose. Ensuite, Allah lui a dit de leur dire « Wala ana abidum ma abattum » Donc ça, c'est ce qui a précédé, c'est dans le passé. Il leur a dit
«
Ô vous les infidèles, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, actuellement, ni dans le passé. » Et vous, actuellement et dans le passé, vous n'adorez pas la même chose que moi. Moi, j'adore Allah seul et vous, vous êtes des associateurs. Donc, à l'avenir, il leur a dit « Wala ana abidum ma abattum » et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez à l'avenir. Moi, je vais continuer à adorer Allah seul. « Wala antum abiduna ma a'bud » et vous n'êtes pas non plus adorateur de ce que j'adore. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son noble prophète, alayhi salatu wa salam, de montrer à ses infidèles, à ses mécréants, qu'il n'a jamais adoré ce qu'ils adorent, les statues, les divinités. Ni en apparence, ni intérieurement. Il a toujours adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est désavoué de leurs adorés. de leur fausse divinité. Et de la même manière, eux, ils n'adorent pas Allah. Car celui qui adore Allah, c'est celui qui l'adore sincèrement, qui l'adore exclusivement. Et eux, leur adoration est accompagnée d'associationnisme. Et à la fin de cette sourah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de marquer une distinction claire entre la religion du monothéisme, la religion de l'islam, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et le païanisme, le polythéisme, l'associationnisme. Et il lui a dit de leur dire « Lakum dinukum waliyadin ». Vous avez votre religion et j'ai la mienne. À vous votre religion et à moi ma religion. Et la religion du prophète alayhi sallam, elle est différente de la religion des mécréants. Car la religion du prophète alayhi sallam, c'est la religion de vérité, dans laquelle nous adorons Allah seul sans rien lui associer. Et eux, ils adorent Allah, ils adorent autre avec lui. Donc la vraie religion, elle est unique. N'est-ce pas? La vraie religion, elle est unique. Il n'y a qu'une seule vraie religion. C'est la religion de l'islam. Donc la religion de tous les prophètes, c'était quoi?
L'islam.
Et le judaïsme, le christianisme, n'est-ce pas des religions de prophètes? J'attends votre réponse. Le christianisme, le judaïsme, est-ce que ce sont les religions de Jésus et de Moïse?
Non.
La religion de Jésus, de Isa alayhi salam, et la religion de Moïse, c'est l'islam. Tous les prophètes ont appelé à l'islam. Les législations n'étaient pas exactement les mêmes. Lakin, le fond est la religion à laquelle tous les prophètes ont appelé, tous les messagers, depuis Adam, le premier d'entre eux, jusqu'au dernier des prophètes et messagers qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous appelé à une seule religion. C'est pour ça que c'est une erreur de dire les trois religions monothéistes. Il n'y a pas trois religions monothéistes. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste. C'est la religion d'Allah qu'il a révélée à tous ses prophètes et elle s'appelle l'islam. Et elle s'appelle l'islam qui signifie... Que signifie islam? Que signifie le fait que tu sois musulman?
Ça signifie qu'on adore que Allah son associé.
Ahsante. Une autre réponse. Que signifie musulman en arabe?
Je dis.
Réponds.
Musulman, ça veut dire être croyant. Un musulman, c'est être croyant.
Croyant. Taïb. Ça, c'est mu'min. Croyant. Lakin musulman signifie soumis. Soumis. Musulman signifie en arabe soumis. C'est-à-dire, tu es soumis à la volonté d'Allah. Tu es soumis à la religion d'Allah. Tu es soumis à la législation d'Allah. C'est ça la signification de musulman. D'accord? Ok. Donc, ainsi, on aura terminé cette première partie. Je vais vous poser deux questions par rapport à aujourd'hui. La première question. Ma ma'na shahadati an la ilaha illallah. Que signifie l'attestation de foi la ilaha illallah? Celui qui veut répondre.
La
ouvre son micro seulement.
Je dis que je respecte Allah.
Mashallah. Ahsant. Qui connaît la réponse en arabe? Quelle est la signification de la ilaha illallah?
لا
معبود الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك احسنت احسن الله اليك احسنت لا معبود بحق الا الله nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui mérite l'adoration notre salat notre prosternation notre sadaqa nos aumônes nos invocations notre sacrifice tous les rituels d'adoration que nous accomplissons, on les accomplit pour Allah seul. Voyez. Deuxième et dernière question. Quelle est la signification de la deuxième attestation de foi Anna Muhammad al-Rasulullah. Ella, Ella, au lieu de faire des bêtises, répondez. Tfadali ya Zaid. C'est le messager d'Allah. Ahsan. Taïb. Cette attestation de foi, yani sa traduction, comme Zayd a dit, il a dit « Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah »« J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. » Il est le dernier de ses messagers et prophètes. C'est-à-dire il n'y aura plus de prophète ni de messager après notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand tu dis cette parole, est-ce que c'est une parole qu'on répète comme ça ? Où ça implique des choses. Ça implique, entre autres, de croire en la véracité de tout ce qu'il nous a rapporté. Tasdiquhu fima akhbar. Wa ta'atuhu fima amar. Et de lui obéir dans tout ce qu'il nous a ordonné. Sauf si on ne peut pas. Car Allah, dans cette religion, il ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Par exemple, Allah t'a ordonné de faire la salat debout. Si t'es malade, tu l'as fait assis. Si t'es malade, tu ne peux pas être debout, tu l'as fait assis. Allah t'a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. Si t'es malade et tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas et tu rattrapes plus tard. Naam. Tu dois sortir la zakat. Si tu n'as pas d'argent, tu ne sors pas la zakat. Et ainsi de suite. Et de s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit. Tout ce que le prophète t'a interdit, tu dois t'en éloigner. Car c'est ton bien. Dans ce bas monde, et dans l'au-delà. C'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi de s'écarter de tout ce que le prophète Hassan nous a interdit. Par exemple, l'alcool. Regardez les gens qui boivent l'alcool. Ils désobéissent au prophète Ali salatu wassalam. Les gens qui fument de la drogue. Les gens qui fument de la cigarette. Premièrement, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Ça, c'est le plus grand mal qu'il y a dans leur acte et qu'Allah nous guide et les guide. Lakin, regardez les conséquences. Déjà, c'est une désobéissance. Et ça sera marqué dans son livre comme des péchés qu'il a commis. Ça, c'est la première et la plus grave. Ensuite, il gaspille son argent. Qu'est-ce que tu gagnes à fumer une cigarette ? Et à tirer à de la fumée là, vers ton corps, vers tes poumons, et à t'empoisonner le corps. Qu'est-ce que tu gagnes à boire de l'alcool? Donc c'est une perte d'argent. C'est du gaspillage d'argent. aussi, c'est quelque chose. Regardez aujourd'hui, ils sont arrivés au point de marquer sur les paquets de cigarettes que fumer, ça tue. Fumer provoque le cancer, une des plus graves maladies qui existent à notre époque. Et malgré ça, les gens, ils vont fumer. Ils se désavouent d'eux, ils leur disent, voilà, on vous a averti. Comme ça, si tu attrapes un cancer, tu ne vas pas venir nous attaquer en justice pour réclamer des indemnités ou la... On ne te donnera rien du tout. Tu auras donné ton argent en connaissance de cause que ça peut te provoquer le cancer. On te l'a marqué sur le paquet. Regardez celui qui boit l'alcool. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui boit l'alcool ?
Il devient fou.
Il devient fou. Excellente réponse. Il n'a plus sa raison. Il ne sait plus ce qu'il fait. Regardez cette chose magnifique qu'Allah nous a donnée, qui nous distingue des animaux, la raison. Et lui, quand il boit l'alcool, il n'a plus de raison. Il devient un fou. Donc pourquoi il fait ça? On est en droit de se poser la question, mais pourquoi tu veux plus avoir ta raison? Pourquoi tu veux devenir un fou? Vas-y directement dans un hôpital psychiatrique, ils te font des injections, comme ça tu deviens fou pour de bon. Si tu veux te débarrasser de ta raison, c'est le moyen le plus rapide. Mais ça c'est la bêtise humaine et le mal auquel appelle Shaitan et dans lequel il sera suivi par certains humains. Qu'Allah nous guide et les guide. Donc, tu perds ton argent, tu perds ta raison, tu perds ta santé. Tu nuis à ton entourage. Regardez quelqu'un qui a fumé une cigarette. Tu ne peux plus t'asseoir à côté de lui. Ça sent mauvais. Et ça nuit à sa santé. Et ça met une mauvaise odeur sur ses vêtements. Alors, je ne vous parle pas de ce qui arrive à l'intérieur de son corps. C'est des choses très graves. Et allez, regardez, je vous invite à visionner une vidéo sur YouTube, ou là, quelque part, où il montre le poumon de quelqu'un qui a fumé pendant 10 ans, là 20 ans. Ça devient comme du charbon. Regardez le poumon de quelqu'un de normal, et le poumon de quelqu'un qui a fumé pendant 10 ans ou 20 ans. Ça devient noir comme du charbon. Mais pourquoi tout ça? Juste pour faire plaisir à Iblis? Lakin, ils ont incité les gens à fumer en leur embellissant cette chose-là. C'est pour ça, vous, allez dans les films américains, hollywoodiens, tout ça, toujours ils vont montrer la star, l'héros du film, il a une cigarette, il fume, Zama, il est wad. C'est pour ça Allah nous a donné une raison avec laquelle on réfléchit. Tu ne fais pas une chose parce qu'il t'invite à la faire et il te l'embellisse. C'est un mal. Et en plus, le plus grave dans tout ça, ne l'oubliez pas, c'est que c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, revenons à ce que implique la deuxième attestation de foi. Shahadatu anna Muhammadin, anna Muhammadar Rasulullah. Shahadatu anna Muhammadar Rasulullah. L'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc, croire en la véracité de tout ce qu'il nous a rapporté, lui obéir dans tout ce qu'il nous a ordonné, selon notre capacité, et s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit. Regardez, on n'a pas dit selon notre capacité. Qui peut m'expliquer pourquoi j'ai dit selon notre capacité dans l'obéissance aux ordres et je ne l'ai pas dit dans l'éloignement des interdits? Allez. C'est là où on teste votre niveau de concentration et de réflexion. Qui peut répondre? Tfadali Ahmed. Ou Daoud.
Est-ce que Allah il a dit dans le Coran?
Non.
Est-ce que Allah il a dit dans le Coran la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha?
Ahsant. Ça c'est par rapport aux ordres. Lakin, pourquoi les interdits on ne dit pas selon ta capacité? Tu t'écartes de l'haram selon ta capacité. On ne dit pas ça. On te dit tu t'écartes de l'haram d'une manière absolue. Pour la simple et bonne raison que l'éloignement de l'haram ne nécessite pas une capacité. Regardez. Comme ça, vous allez comprendre ça pour le reste de votre vie. Je te dis, porte cette bouteille. Porte-la selon ta capacité. Il y en a qui vont arriver, il y en a qui ne vont pas arriver, parce qu'ils n'ont pas la capacité de porter cette bouteille tellement lourde. Il n'a pas la force. C'est pour ça qu'on lui dit, fais-le selon ta capacité. Lakin, si je te dis, ne touche pas à cette bouteille. Est-ce qu'il y a besoin d'une capacité pour ne pas la toucher? Tout le monde peut. Vous comprenez la différence? Je te dis, ne touche pas. Ça, je te dis, ne fais rien. Donc, il n'y a pas besoin de capacité. Contrairement à quand je te dis, fais quelque chose. Il y a besoin de la capacité. Vous avez compris ça?
Non.
C'est pour ça qu'ils disent... Les hommes de science disent que la crainte d'Allah, la piété, elle se manifeste plus dans l'éloignement des interdits. C'est là où tu vois la personne pieuse. Car faire les ordres, faire les obligations, même quelqu'un qui a un niveau de piété bas peut les faire. Là, qui ne s'écarte des interdits, il n'y a que ceux qui ont la foi élevée qui arrivent à le faire. Taïb. Ça, c'est notre deuxième question. Et on va passer à notre troisième et dernière partie de cette rencontre. J'aimerais vous parler d'un compagnon, d'un très très grand compagnon, même s'il était jeune dans l'âge, à l'époque du prophète alayhi salam, lakin c'est un sahabi qui a énormément de mérite. Il s'appelle, avant de dire son prénom, il était surnommé le bien-aimé du messager d'Allah alayhi salam, fils du bien-aimé du messager d'Allah alayhi salam. Qui sait de qui s'agit-il? Le bien-aimé du messager d'Allah, alayhi salam, fils du bien-aimé du messager d'Allah, alayhi salam. Il n'y a qu'un seul homme qui était décrit ainsi.
Anas ibn Malik.
Là. Osama ibn Zayd. Osama ibn Zayd.
Il était mort, il s'appelle Abu Bakr, celui qui est monté dans le truc, et après il a récité le verset du surat Al-Imran, c'est lui?
C'est Abu Bakr, tu me parles de Abu Bakr, le meilleur des compagnons. Lakin?
Oui.
Oui, c'est le meilleur des compagnons, Abu Bakr, radiallahu anhu. Lakin, nous, on parle aujourd'hui de Usama ibn Zayd. Son père, il s'appelle Zayd ibn Haritha. Un des premiers qui sont entrés en islam. Zayd ibn Haritha, avant l'islam, il était appelé comment? Le fils adoptif du prophète, alayhi salam. Zayd ibn Haritha était appelé le fils adoptif du prophète, alayhi salam. Il l'appelait Zayd, fils de Muhammad. Lakin après, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé l'adoption. Tu ne peux pas t'attribuer un enfant qui n'est pas ton propre enfant. Lakin, s'occuper de lui, l'éduquer, veiller sur lui, c'est quelque chose de très méritoire. Mais tu ne peux pas te l'attribuer à toi. C'est pas ton fils. D'accord ? Donc, son père, c'est Zayd ibn Haritha. Un des premiers qui sont entrés en islam. Il vivait avec le prophète chez lui, son père. Et sa mère, c'est Ummu Ayman Baraka al-Habashiyya. Sa mère, la mère de Oussama, elle s'appelle Baraka. C'est une femme éthiopienne, Habashiyya. Elle était noire. Et son père, c'est un homme arabe. Il était blond de peau. Sa mère, Ummu Ayman, c'est Nabi Islam, il disait d'elle que c'était sa mère après sa mère. C'est elle qui a élevé le prophète, alayhi salam. La nourrice du prophète, alayhi salam, la femme qui l'a élevée, c'était une esclave qui appartenait à sa mère. Et c'est elle qui a élevé le prophète, alayhi salam. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, l'aimait comme un homme aime sa mère. C'est elle qui a toujours été avec lui, qui a veillé sur lui, alayhi salatu wassalam. Donc, la mère de Oussama, c'est Ummu Ayman. Et le père de Oussama, c'est Zayd ibn Haritha, celui qui était appelé le fils adoptif. Et Oussama, c'est le bien-aimé du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fils du bien-aimé qui est Zayd ibn Haritha, fils de cette femme que le prophète alayhi salam aimait énormément, qui s'appelle Ummu Ayman, radiyallahu anha. Donc vous voyez qui est cet homme qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd est né à Mecca. Il est né à Mecca. Il est entré en islam 7 ans à peu près avant l'émigration vers Médine. Donc en immigrant, il avait à peu près 7 ans. Et quand le prophète alayhi salam est décédé, Oussama avait 18 ans. Il avait 18 ans. Et juste avant la mort du prophète alayhi salam, il a désigné Oussama à l'âge de 18 ans. Il a désigné Oussama radiallahu anhu pour diriger une très grande armée dans laquelle il y avait Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali radiallahu anhum jami'an pour aller affronter les Romains. Il l'a désigné comme chef. Et Nabi Aslam a entendu certains qui critiquaient le fait qu'il soit désigné comme chef de cette armée. Et il leur a dit qu'il mérite bien ce statut. Et c'est pour ça, Omar radiallahu anhu, à chaque fois qu'il le rencontrait par la suite, il disait « Bienvenue à notre émir », car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné ainsi. Et il a même informé qu'il méritait ce statut, à 18 ans déjà. Oussama radiallahu anhu a participé dans la première bataille dans laquelle il a participé. Et avant de dire quand est-ce qu'il a été accepté, admis pour participer dans une bataille, il s'est présenté dans la bataille de Uhud avec d'autres jeune homme pour participer dans la bataille de Uhud. Et Nabi alayhi salam ne l'a pas accepté ce jour-là. Car il n'avait pas l'âge. Donc il a refusé avec d'autres jeunes hommes qui se sont présentés. Il est reparti en pleurant. Regardez, yani, ses enfants et l'éducation qu'ils recevaient de leur famille. C'était des enfants dans l'âge, mais des hommes, prêts à assumer des grandes responsabilités. Des enfants, mais qui sont conscients du sens de la responsabilité. Et malheureusement, à notre époque, ces valeurs se perdent. Ces valeurs se perdent en partie ceci revient à, des erreurs dans l'éducation. Car aujourd'hui, la plupart des gens n'éduquent pas leurs enfants à assumer des responsabilités. Et ça peut être, cette chose-là peut commencer avec des petites responsabilités. Charger l'enfant de se rendre dans le hanout, ou là dans le baqala, ou là dans le magasin de commerce, pour acheter des choses. Ça, c'est une responsabilité. Ça peut commencer comme ça. C'est pas grave. Même s'il ramène des pommes de terre pourries, il choisit mal les tomates. C'est pas grave. C'est comme ça qu'il va apprendre. Donc, il faut confier des missions aux enfants, afin qu'ils aient le sens de la responsabilité. Lui donner un budget à dépenser sur une semaine. Et lui faire comprendre que si jamais il le dépense le premier jour, il n'aura rien pour le reste de la semaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui donne le sens de la responsabilité et à gérer un budget. Et ainsi de suite. Ensuite, Oussama, radiallahu anhu, s'est présenté dans la bataille suivante, qui est la bataille des tranchées, Al-Khandaq, contre les coalisés, l'Ahzab. Et cette fois-ci, il a été accepté par le prophète, alayhi salam. Il avait quel âge, selon vous? Il avait quel âge quand il a été accepté dans la bataille des tranchées? Vous êtes endormi?
Endormi.
Tu t'es endormi?
Juste, on écoute.
Taïb, il avait quel âge?
Je sais pas s'il avait 30 ans.
Mais non, mais 30 ans, 30 ans, il a fait 30 batailles. Il avait 15 ans.
15 ans?
15 ans. Ça, c'est la première bataille dans laquelle il a participé. Ensuite, il a participé dans la bataille de Hunayn par la suite.
15 ans, c'est petit, vas-y.
Ouais, 15 ans à notre époque, c'est petit. Lakin, à leur époque, 15 ans, c'était déjà un homme.
Ah ouais?
Ouais, c'était déjà un homme. Allah al-Musa'an. À notre époque, peut-être 20 ans, c'est pas un homme. C'est pour ça qu'on rencontre un grand problème pour ceux qui souhaitent marier leur fille jeune pour trouver un homme à cet âge-là, 20 ans. Taïb. Ensuite, il a participé dans la bataille de Hunayn par la suite et il fait partie des personnes qui sont restées aux côtés du prophète et qui l'ont défendu, qui l'ont protégé. Il a participé aussi dans la bataille de Mu'tah, dans laquelle son père est tombé martyr. Son père est tombé martyr et il a patienté. Il a accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux muslimines. Donc, Oussama ibn Zayd, il a une petite anecdote que je vais vous mentionner, car elle est très importante. Dans une bataille, Oussama radiallahu anhu, c'était un homme très courageux. Déjà très jeune, il était d'une bravoure exceptionnelle. Dans une bataille, Oussama a aperçu un mécréant qui était très courageux et qui faisait beaucoup de dégâts dans les rangs des musulmans. Il a tué plusieurs personnes. Et personne n'arrivait à le stopper. Et quand Oussama radiallahu anhu l'a aperçu, il l'a poursuivi. Jusqu'à ce qu'il l'a fait tomber dans son cheval, de son cheval et il l'a tué. Mais l'anecdote, elle est ici. Avant de le tuer, cet homme a dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Et Oussama radiallahu anhu l'a tué malgré cela. Pourquoi il l'a tué? Parce que c'est un homme qui tuait les musulmans, et quand il a été attrapé, il a dit ça juste pour se sauver. Et non pas parce qu'il a cru réellement. C'est ce qu'on peut comprendre. Lakin, regardez, en islam, on ne fonctionne pas comme ça. On ne raisonne pas comme ça. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah. Il ne fallait pas le tuer. C'est pour ça qu'on Nabi Aïssam a appris cela. Il a blâmé Oussama radiallahu anhu d'une manière très forte et très sévère. Au point que Oussama radiallahu anhu a souhaité, si seulement il n'était pas entré en islam avant cela, avant ce jour. Tellement il a regretté. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire, ya Oussama, devant Allah, avec la parole de la ilaha illallah. Cet homme a dit la ilaha illallah. Et tu l'as tué malgré cela? Il a dit au messager, il l'a dit, juste parce qu'il avait peur d'être tué. Et ça, on ne peut pas le savoir avec certitude, car c'est dans le cœur. Il a dit la ilaha illallah, il ne fallait pas le toucher. Également, parmi les anecdotes qui ont été rapportées par rapport à Oussama, et peut-être on va terminer avec celle-là, c'est que une grande sahabiya qui s'appelle Fatima bint Qais, une femme noble qui fait partie des nobles femmes de Quraysh. Après la mort de son mari, elle a été demandée en mariage par quelques compagnons. Et le prophète A.S.A.M. l'a interrogé, lui a dit, est-ce que quelqu'un s'est présenté et t'a demandé en mariage? Elle a dit oui. Il lui a dit qui? Elle lui a dit un tel et un tel. Il lui a dit, le premier, il est dur en comportement. Et peut-être t'auras du mal avec lui. Et le deuxième, il est très pauvre. Peut-être aussi t'auras du mal avec lui. Malgré que c'est des compagnons. C'est pour ça, ça c'est des choses très importantes avant le mariage. Une femme qui souhaite se marier, elle choisit un homme qui correspond à ses critères, à son statut. Si elle est habituée toute sa vie à vivre dans l'aisance, elle ne va pas se marier avec quelqu'un qui vit avec Khobz Watiai. Ça va être dur. Peut-être elle pourra supporter pendant quelques mois. Lakin, par la suite, ça va être dur pour elle. Et ça, ce n'est pas une règle générale. Lakin, d'une manière générale, ce n'est pas une règle absolue. Lakin, d'une manière générale, c'est comme ça. Aussi, la femme, elle regarde le comportement du prétendant, car il est très important. Sa religion et son comportement. Sa religion, c'est sa croyance. C'est son attachement à la salat en groupe pour les hommes. Et son comportement, que ce soit quelqu'un de doux, pas quelqu'un de très dur, car ça peut, il peut être un croyant avec une certaine dureté, un bon croyant avec une dureté. Et peut-être qu'elle ne pourra pas supporter cela. Et aussi, elle regarde, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille? Yani, et ça c'est un problème très récurrent à notre époque, des femmes qui se marient avec des frères et après elles se plaignent, oui il ne travaille pas, mais tu l'as trouvé comment au début? Tu l'as trouvé comme ça. Tu l'as choisi comme ça, donc t'assumes. Regardez, l'islam, il donne à la femme toutes ses possibilités dans les choix. Lakin, une fois que tu choisis ton mari, tu dois patienter avec lui. T'as accepté sa pauvreté, t'as accepté sa dureté, t'as accepté son fainéantisme, alors t'assumes. Tu viens pas te plaindre par la suite. C'est pour ça, yani, ces choix nécessitent avant tout une bonne connaissance de soi-même. Et on est à une époque où les gens s'ignorent eux-mêmes. Ils pensent être capables de supporter certaines choses alors que ce n'est pas vrai. C'est pour ça, une fois qu'ils sont face à la réalité, ils faiblissent. Ils demandent la séparation et le divorce. Taïb. Donc, Fatima radiallahu anha se sont présentés à elle deux compagnons. Nabi Hassan lui a dit, je te conseille d'épouser Oussama, fils de Zayd. Oussama ibn Zayd. Et elle était réticente. Elle a dit, moi j'épouse Oussama. Rappelez-vous que Oussama, il avait Il ressemblait à sa mère. Il ne ressemblait pas à son père. Son père, c'est un arabe. Sa mère, c'est une éthiopienne. Et Oussama ressemblait à sa mère. Il avait une laideur dans son visage. Il avait une laideur dans son visage. On a vu ses qualités. Un homme exceptionnel. Un homme extrêmement courageux. Le bien-aimé du messager d'Allah, alayhi salam. Le Nabi, alayhi salam, il l'aimait comme il aimait Al-Hassan, fils de Ali. Car ils sont nés en même temps à peu près. Il les aimait tous les deux. Il disait, je les aime, aimez-les. Et un jour, le Nabi a voulu essuyer Oussama ibn Zayd. Il a pris quelque chose pour lui essuyer le nez. Et Aïcha lui a dit, laisse au messager d'Allah, je vais m'en occuper. Il lui a dit, non, laisse-moi faire. Il lui a dit, je l'aime. Alors, aime-le. Le Nabi l'aimait énormément. Lakin, il avait cette laideur dans le visage. Et ce qui détermine ton rang auprès d'Allah, ce n'est pas la beauté de ton visage. Ni ta richesse.
Oui.
C'est ta foi et ta piété et ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Fatima bint Qais, fille de Qais, était réticente au début. Après, elle a dit, je vais accepter ce que le Nabi a choisi pour moi. Et ça, c'est l'attitude du croyant. Car le choix du prophète pour toi, même si tu n'es pas d'accord, tu vois que peut-être il y a meilleure chose pour toi, mais le choix du messager d'Allah pour toi est meilleur que ton choix pour ta personne. Taïk, je vous pose une question. Si Fatima radiallahu anha avait refusé cette offre du prophète, est-ce qu'elle serait dans le péché?
Non.
Mais non, mais bien évidemment que non. C'est le mariage. La fille, la femme, elle choisit son mari librement. Personne ne peut lui imposer. Même pas son père. En islam, le père ne peut pas imposer à sa fille d'épouser un homme. Il peut lui recommander un homme. Car son père a plus d'expérience, a plus d'âge, est plus mûr que elle. Donc il sait que cet homme, il va la rendre heureuse. Mais elle, peut-être, fait autre choix. Lakin, même dans ce cas-là, le père qui a une grande autorité sur sa fille et sur son fils ne peut pas imposer à sa fille d'épouser un homme. Il peut lui recommander et lui dire, ma fille, cet homme, il est meilleur pour toi. C'est un homme. Et bien, là, tu seras heureuse avec lui. Il peut lui recommander comme ça, mais pas lui imposer. Donc, elle ne serait pas dans le péché. Mais cette femme, elle est tellement intelligente, elle a tellement de foi qu'elle a compris que le choix du prophète est meilleur pour elle que son choix pour elle-même. C'est pour ça qu'elle a accepté, finalement elle a accepté d'épouser Oussama ibn Zayd. Et elle a dit qu'elle était enviée par ses voisines, tellement elle était dans le bonheur avec cet homme. Tellement elle était dans le bonheur avec Oussama radiallahu anhu, que ses voisines, la jalousie par rapport à ça. Elle était dans le bien avec ce mari. C'était tellement un bon mari. Radiallahu anha wa ardaha. Voilà, Oussama radiallahu anha est décédé en l'an 54 de l'Hégire. Il est décédé à Médine. Et il est décédé à l'âge de 75 ans, quelque chose comme ça. Et Oussama, il fait partie des compagnons qui ne sont pas rentrés dans la fitna qui a eu lieu entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah radiallahu anhu. Donc il est mentionné parmi les compagnons qui ne sont pas rentrés dans cette fitna. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله
أستاذ
نعم
من فضلك جزاك الله خيرا. جاب بزون بوزي اون كيسيون. است كو لا فوا ا في بارتي دو لا كاباسيتي؟
لا فوا est-ce que la foi, est-ce que la capacité est exigée dans la foi? La réponse, non. Car la foi, elle est où? La foi, à la base, c'est dans le cœur. La foi, quand on parle de l'islam et de l'iman et de l'ihsan, l'iman, ce sont que des croyances. Donc tout le monde peut avoir toutes les bonnes croyances. Personne ne t'impose d'avoir une mauvaise croyance. Même si quelqu'un te force, imaginons le cas, quelqu'un tient un pistolet, il te dit « Tu vas te prosterner pour cette statue, sinon je vais te tuer. » Et tu sais qu'il va te tuer, si tu ne le fais pas. D'accord? Vous suivez avec moi? Donc, tu sais très bien que si tu ne le fais pas, il va te tuer. Dans ce cas-là, tu te prosternes pour cette statue. Là qui est dans ton cœur, est-ce que tu acceptes cela?
Non.
Tu le détestes. Tu le détestes et tu ne l'acceptes pas. Donc ça ne touche pas à ta foi. D'avoir fait cet acte dans l'apparence, mais dans le cœur, tu crois que ça c'est caduque. Et tu le fais parce que cet homme il va te tuer. Seulement pour sauver ta vie. D'accord? Et donc, ça ne touche pas ta foi. Et personne ne peut savoir est-ce que tu détestes cet acte ou pas. Donc, au niveau de la foi, il n'y a pas la condition de la capacité. On doit avoir toutes les bonnes croyances. Car c'est dans le cœur. Et personne ne contrôle le cœur. Et personne ne peut savoir ce qu'il y a dans le cœur. Contrairement à ce qu'on a dans les pratiques. Par exemple, la salade, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le jeûne. L'aumône, zakat, et ainsi de suite. Barakallahu fi. Autre question?
Oui, c'est important de dire la doa
avant d'aller dormir?
Non, avant d'aller aux toilettes.
Oui, c'est très important. Sauf si tu veux qu'un shaitan te touche ou là te fait du mal. Il faut dire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège. C'est très important. C'est très important de dire les invocations du matin et c'est très important de dire les invocations du soir et les invocations avant de dormir ainsi que les invocations après chaque salat.
Barakallahu. J'ai pas compris. J'ai pas compris.
C'est très important de dire les invocations avant d'aller aux toilettes. De dire bismillah. Sinon, bismillah. Tu dis bismillah. Naam. Alors écoute. Tu dis bismillah. A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. Tu dis bismillah, je cherche protection auprès d'Allah contre les mâles des shayatin ainsi que leurs femelles.
Mu'allim, toujours j'oublie de dire la doa.
Eh ouais, si tu l'as dit.
Ah,
si tu l'as dit pas, peut-être est-ce tu ne seras pas droit... protégé par Allah.
Mais est-ce qu'on a le droit de dire bismika a'ouzou bika min al-khubz al-khaba'ith?
Bismika a'ouzou bika min al-khubz. Moi, même si c'est rapporté authentiquement, tu peux le dire. Moi, je vous ai dit ce que je connais authentique. C'est bien d'avoir à chacun de vous, d'avoir la citadelle du musulman, un livre dans lequel il y a les invocations que tu dis dans ta journée.
Est-ce que les djinns, ils aiment Allah?
Il y a des djinns qui aiment Allah, qui sont des croyants comme nous, qui sont des muslimines comme nous. Il y a des djinns qui sont mécréants, comme des mécréants parmi les hommes. Amma shayatin, c'est tous des mécréants. C'est tous des ennemis d'Allah et c'est tous nos ennemis. Le djinn, il y a des muslimines, il y a des mécréants.
Mu'allim.
Oui.
Tu
الله فيك. وفيكم بارك الله. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.